Merci infiniment à toi et à toi.
Merci beaucoup Frédéric. Je suis d'ores et déjà commencé à introduire Marcel Cabanda et on est très honorés, monsieur, de vous avoir donc, avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc historien de ces historiens dont monsieur Veil parlait ce matin, historien combattant de la mémoire, président du Bouca France. Vous avez été aussi expert auprès du TPI pour le Rwanda. Vous avez contribué dès 1995 à l'ouvrage dirigé par Jean-Pierre Chrétien intitulé « Rwanda, les médias du génocide Paris » aux éditions Cartala. Et ensuite, vous avez coécrit avec lui un ouvrage qui nous intéresse tout particulièrement du fait du thème de notre table ronde, ouvrage intitulé « Rwanda, racisme et génocide », paru chez Belin en 2013. Et j'invite également l'assistance à se procurer donc un ouvrage qui vient de paraître en 2024 au Classique Garnier, donc les récits de rescapés du génocide des Tutsis auxquels vous avez contribué, et Daphrose Agoutier a également contribué à cet ouvrage. Il y a de nombreux témoignages dans cet ouvrage. Alors, pour poursuivre un petit peu dans le cette réflexion sur l'inconcevable dont parlait M. Duclerc précédemment. En effet, lorsque l'on vous lit, M. Cabanda, eh bien, on voit que alors, dès 1959, et notamment dès 1963, petit génocide de Jikongoro, eh bien, il y avait tout lieu on avait déjà on avait de quoi comprendre un petit peu ce qui se passait au Rwanda, et je cite là les mots de Bertrand Russell dont M. Duclerc a parlé. Le massacre, donc celui de 1963, le massacre le plus horrible et le plus systématique depuis l'extermination des Juifs par les nazis. Alors, comment peut-on essayer de comprendre justement ce qui paraît du registre de l'incompréhensible, et comment peut-on essayer de réfléchir à ce passage de la haine raciale au génocide? En fait, quand on vous lit, on a l'impression que cette progression au Rwanda ne se fait pas de proche en proche, mais que très régulièrement, il y a des épisodes génocidaires jusqu'à ce paroxysme dont parlait M. Duclerc à l'instant.
Bonjour Frédéric, merci pour ces 14e assises du négationnisme, contre le négationnisme. Merci aussi de l'avoir organisé à cette date, à la fin du mois de mars, donc à la veille de la 30e commémoration. Ça rentre très bien dans le processus de cette commémoration. Et c'est très bien aussi à la veille des commémorations de rappeler l'histoire, parce qu'il n'y a pas de mémoire sans histoire. Il faut bien un travail d'histoire pour bien transmettre la mémoire, sinon et pas la légende. Les légendes permettent aux négationnistes de travailler. Alors, je regrette que M. Ville soit parti, parce que ce qu'il a dessus, j'allais me rendre témoignage, parce qu'effectivement, le travail d'histoire sur le génocide des Tutsis qui a été accompli par des jeunes, des chercheurs français, a été largement financé ou permis par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Alors, le livre que vous avez cité, Les médias du génocide, il y a aussi Jean-François Dupaquet qui est présent dans la salle, qui me regarde là, et qui a aussi contribué à ce travail. Alors, pour répondre à votre question, c'est vrai qu'il y a bien avant 1994, le génocide des Tutsis, selon le Conseil de sécurité, commence le 1er janvier 1994 et se termine le 31 décembre 1994, une année. Mais si vous demandez aux Tutsis, aux rescapés, de vous raconter, de vous faire le récit de leur vie, de leur histoire, ben, ils vont remonter à 1959. Les premiers moments où il y a alors des passages à l'acte, en 1959, où les maisons sont pillées. elles sont brûlées, où les gens sont battus. Il y a très peu de morts à ce cas-là, mais il y en a qui, il y en a quand même. Où ils sont expulsés de leur terre, de leur maison, de leur colline. Certains vont partir dans les territoires voisins, le Burundi, l'Ouganda, le Congo, qui est devenu le Congo à l'ouest du Rwanda ou bien l'Ouganda. Et il y a, à partir de ce moment-là, et il y en a aussi qui sont déportés de leur terre et parqués dans la zone, la région du Bugesera. Donc il y a à ce moment-là une violence physique contre les Tutsis qui était inconnue précédemment, et contre les Tutsis parce qu'ils sont Tutsis. Et qui ne fait pas de distinction entre les femmes, les enfants, les malades, etc. C'est dans le cadre de, ça se fait dans le cadre d'une révolution sociale, mais c'est une révolution sociale, semble-t-il, pour remplacer la République par la monarchie, par la République. Mais à la fin, on se rend compte que même les pauvres Tutsis qui vivent sur les collines en pâtissent. Alors, c'est jusqu'à ce qu'en 1963, en décembre 1963, il y a, on a toujours gardé en mémoire, on parle toujours de ce qui s'est passé à Gikongoro parce que c'était important dans cette partie de l'ouest du Rwanda où l'administration locale, le préfet, le bourgmestre, les chefs, les membres du parti Parmentou organisent la population civile et font la chasse aux Tutsis. Les gens sont ligotés, jetés dans les rivières. Les autres sont brûlés vifs dans leurs maisons. Et ce qui sont les rescapés qui fuient dans les églises, eh bien, le président de la République, Kayibanda, et le préfet forcent les curés à les renvoyer à la colline, tout en sachant que sur la colline, ils sont attendus par les gens qui les ont chassés, sachant aussi que sur la colline, ils n'ont rien à manger parce que tout a été pillé. Donc, en quelques jours, il y a 8000 morts, à peu près une semaine. C'est au fond le rythme que l'on retrouve en 1994. Alors, il ne faut pas penser que ça se passe qu'à Gikongoro. Et ça se passe partout au Rwanda. Ça s'est passé à Kigali. Tous les leaders du parti monarchiste, UNAR, qui étaient à Kigali, sont arrêtés le 24 décembre et fusillés à Bengeli. C'est dans tous les télégrammes de cette époque-là. Et un peu partout dans le Rwanda, tout ce qui apparaît comme étant plus ou moins l'élite Tutsi est arrêté, les maîtres d'école, les assistants agronomes sont arrêtés. Beaucoup ne reviendront jamais. C'est une question. Tout à l'heure, M. Veil parlait du négociationnisme, mais à l'époque, il y a eu une occultation totale de cet événement. Il ne fallait pas en parler. La seule personne qui a osé en parler, c'était un professeur de français qui enseignait à l'école, au groupe scolaire à Butaré, qui c'est lui qui a donné l'alerte par un article publié dans le journal Le Monde, et puis après, qui a fait une lettre de démission par laquelle il voulait dénoncer ce qui se passait. Eh bien, il a eu des problèmes au Rwanda parce qu'il a été chassé par son employeur UNESCO qui ne voulait plus l'employer parce qu'il avait osé ouvrir la bouche. Donc c'est quelque chose qui a été occulté. Alors, il ne faut pas non plus voir que penser que tout ça décidé dans génocide plus tard, génocide, Alain David va me corriger si je me trompe, on peut dire que c'est l'indécidable. Au fond, ce qui se passe à ce moment-là ne conduit pas forcément à ce qui se passe en 1994. Il y a des possibilités, il y a des opportunités de vivre et de faire autrement. Et ces opportunités ne sont pas prises. C'est-à-dire que chaque fois qu'on essaye de corriger notre trajectoire, il y a quelque chose qui vient de dévier vers un génocide.
Merci beaucoup, M. Kabanda, pour ces premiers éléments. Vous parlez dans cet écrit de, finalement, du fait que de la violence des mots à la violence physique, la mue n'a pas été longue, c'est votre phrase. Et je me posais la question, de savoir quand est-ce que les termes de mauvaise atmosphère, de vent mauvais, ces termes que l'on entend Unwakamubi ou Muwaga, ont commencé à être employés et quand est-ce que l'on en est arrivé finalement à entendre ces mots Inyenzi, Kafar, hein, qui montrent cette déshumanisation qui facilite finalement ce passage d'un racisme exacerbé au degré de haine finalement qui permet le génocide.
Oui, de la violence des mots, le passage à la violence physique n'a pas pris beaucoup de temps. C'est-à-dire que dès lors que vous commencez à stigmatiser un groupe, dès lors qu'un groupe il est stigmatisé, qu'il est diabolisé, qu'il est accusé de tous les maux, c'est un cancreur, c'est un serpent, c'est un menteur, il est malicieux, la femme tutsi est dangereuse, il ne faut pas l'épouser, il ne faut pas en faire sa secrétaire, il ne faut pas en faire sa concubine. Le tutsi, il est malhonnête dans les affaires, c'est un orgueilleux qui veut le pouvoir, c'est un sanguinaire. Dès lors que vous avez ce discours qui est diffusé dans l'opinion et qu'il n'y a personne pour dire arrêtez, stop, dès le jour où est publié dans Kamoura les 10 commandements des Bamoutou qui stigmatisent terriblement la femme tutsi, les 3/4 de ce texte concerne les femmes, qu'il ne faut pas épouser, d'autres qu'il ne faut pas employer. Et avec l'article 8 qui dit qu'il faut cesser d'avoir pitié des Batutsi, et que la 4e de couverture s'est étonnée par les photos du président Mitterrand, avec une légende, un ami parmi les amis, et bien à ce moment-là, si ces personnes nous disent stop, et bien la violence, elle est possible. Dans l'idée, on protège, on va protéger les Hutus contre les ennemis Tutsi. C'est le Tutsi est stigmatisé, au fond, depuis très longtemps, c'est un étranger, depuis le début du 20e siècle. Il est considéré comme un étranger, et ça c'est la vision ou l'interprétation des anthropologues ou des explorateurs et puis des missionnaires du début du XXe siècle, mais c'est intériorisé par l'élite rwandaise. Le premier texte, il faut revenir au texte, le manifeste des Bahutu publié le 24 mars 1957 qui s'appelle « Note sur l'aspect social du problème racial indigène au Rwanda ». Ce texte est fondateur. Donc il y a un problème racial. À partir de ce moment-là, il faut le résoudre. Et au mois de la fin, à la fin de l'année 1991, Kangwa dit comment allons-nous résoudre définitivement ce problème. Eh bien, la réponse est à la première page, une photo de Kayibanda avec à côté une belle machette. Voilà, on règle. Donc, de la violence des mots, c'était facile de basculer dans la violence physique. Alors, le vent mauvais, vous avez parlé du vent mauvais. Oui, c'est en 59 que la révolution sociale, le mouvement de 59, et toute la violence, s'est traduite dans les mots, par les mots rwandais qui dit Muyaga. Muyaga, ça veut dire un vent très mauvais. Qui parcourt le pays et sème la désolation, les larmes, les morts.
Et quant au terme Inyenzi, quand est-ce qu'on le voit ?
Alors Inyenzi, oui, Inyenzi est utilisé pour la première fois, je ne peux pas vous dire la date, mais il est utilisé dans les années 61, 50, 62 et surtout 63. Alors ça désigne qui ? C'est qu'à partir de la révolution sociale, je vous ai parlé de ces gens qui sont exilés, qui sont parqués dans des camps au Burundi, notamment, et en Tanzanie, et qui ne se résolvent pas à cette situation d'exilés, qui veulent rentrer chez eux. Eh bien, il y a des intrusions sur le territoire, il y a eu des tentatives d'entrée avec les armes à la main au Rwanda. Alors, il y a toute une discussion sur le sujet, qui les a appelés Ignazi. Alors Ignazi, c'est un cafard, c'est un insecte très sale. Alors on les a appelés Ignazi parce que, semble-t-il, il s'infiltrait la nuit. Et vous savez ce qu'ils ont eu, le malheur d'avoir des cafards à la maison, ils savent très bien que c'est plutôt dans l'obscurité qu'ils apparaissent. Et quand on allume la lumière, ils sont là, on les voit. On les voit pas venir, on les voit dès qu'ils sont là, dès qu'on allume la lumière. Alors ce serait l'armée rwandaise, les cellules de sécurité rwandais, qui les auraient appelés Ignazi. Mais d'autres disent aussi, c'est une théorie selon laquelle eux-mêmes qui se seraient appelés Ignazi, alors ce serait en abrégé. Ingamburarugozi et Mijeku Ignazi, alors les Rwandophones, c'est les Rwandophones comprennent. Ingamburarugo, c'était le nom d'une armée royale. Zie et Mijeku Ignazi, ça veut dire qu'ils ont pris la décision d'être les meilleurs. Voilà, c'est en fait, on retrouve un peu cette image des Imhotepers des années 90. Alors, où c'est eux qui se sont effectivement donné son nom? Toujours est-il qu'il a été récupéré et à cette fois-ci traduit dans ce que les Rwandais pouvaient comprendre, Ignazi, le cafard, et appliqué non seulement à ces infiltrés qui venaient de l'extérieur avec des armes à la main, mais cette fois-ci à tous les Tutsis. Donc tous les Tutsis sont des Ignazi. Ce sont des cafards. Donc ce sont des insectes qui sont sales, qui sont mauvais et dont il faut se débarrasser. Mais cette terminologie date des années 60.
Voilà. Alors, en fait, on voit cette idéologie de plus en plus présente, ces termes très forts employés, et environ tous les 10 ans, en fait, allez-vous me corriger, on a cette date de 1963 qui est très importante, puis on a 73, ces décisions dans les années 80 qui visent à égaliser, là c'est le terme de Erika Inza, si je ne me trompe pas, cette prétendue idée en fait de justice sociale qui est invoquée, les termes également de protection, de paix qui apparaissent. Comment peut-on expliquer finalement ces deux lames de fond, d'une part la lame idéologique est très claire, hein, qui ne laisse aucun doute quant à l'intention, et ces prétentions à la protection, la paix ou à la justice sociale, qui d'une certaine manière peut-être aussi vont faciliter, notamment par les décisions qui sont prises avec les fiches de suivi où on suit même les enfants, hein, des fiches de suivi dans les années 80, qui vont faciliter en réalité le génocide.
Ben, vous évoquez plusieurs choses, c'est-à-dire que c'est toute la manière dont la République rwandaise, les deux républiques du Rwanda, celle de Kayibanda de 61 à 73, celle d'Habyarimana de 73 à 94, ils ont une image qui est belle à l'extérieur. C'est la révolution sociale. La révolution sociale, a priori, est née dans la démocratie. Et donc, a priori, on est dans l'objectif, dans l'idéal de l'égalité, de mettre fin aux injustices. Alors, l'injustice est perçue uniquement dans le sens, bah oui, c'est la majorité autour qui doit être au pouvoir et recevoir tous les avantages contre une minorité tutsi qui est accusée d'avoir dominé et pendant longtemps exploité les hutus. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que c'est pour ça que j'ai parlé de ce texte qui est l'aspect social du problème racial. Ben, ça veut dire qu'on règle le problème racial, on ne règle pas le problème social. Ce n'est pas parce qu'ils sont mal, parce qu'en tout appartient au groupe majoritaire qu'on est dans la démocratie, dès leur camp Kaoutou est au pouvoir. C'est son, cette espèce de on inverse, on travestit les mots. Les mots ne disent plus ce qu'ils veulent dire. La révolution rwandaise a souvent été comparée à la révolution française parce que on a parce qu'on s'est débarrassé des rois, etc. Mais si la révolution française aboutissait à l'égalité, la révolution rwandaise, en fait, maintenait les inégalités et changeait les inégalités, changeait juste de signe. C'est la même chose avec cette question, ce concept de la paix et du développement, qui est très développé par la République de Habyarimana. C'est le gouvernement de la paix et le développement. L'unité, la paix et le développement, c'est son principe. Mais cette paix, c'est la paix des cimetières. Bah, d'une part, les réfugiés doivent rester où ils sont, il ne faut pas qu'ils rentrent. Les Tutsis de l'intérieur sont soumis à la règle des quotas. Dès l'inscription à l'école primaire, chaque enfant reçoit une fiche sur laquelle est noté son nom, le nom de ses parents et son appartenance ethnique. Et puis, son avancement dans le système scolaire dépend de son appartenance ethnique. L'idée est qu'ils ne doivent pas dépasser 10% de la population scolaire et 10% au niveau des emplois. Et ce que vous avez rappelé de 1973, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut surveiller l'avancée des Tutsis dans la société, et quand il semble qu'il y en a un peu trop, alors on corrige, on adapte. Et en 73, c'est vrai que la plupart des élèves Tutsis, tous les élèves Tutsis, sont chassés des écoles, et beaucoup partent au Burundi, on les retrouvera dans l'armée des Imotagnes. Donc il y a une pratique de pogrom régulier, 63-73, et entre 90 et 94, alors là, le rythme, il y en a beaucoup plus. On n'attend plus, c'est pratiquement tous les mois que ça se produit dans une région, dans les Bachés, les Bagogué, dans le Bouguessera, dans le Moutara, etc. Donc c'est assez régulier. L'idéologie raciste, raciale, est accompagnée de pogroms comme pour la rendre encore plus forte. C'est la conscientisation par la violence. La violence, il y a la propagande qui est dans les médias, mais il y a des actes. Donc, ceux qui ne comprennent pas à travers les mots vont comprendre à travers les actes, et tout conduit finalement à penser que la solution au problème racial, c'est le massacre, et que cela demeurera impuni, parce que comme le disait Vincent tout à l'heure, eh bien, il y a l'information basse, l'information circule, tout le monde le sait, personne ne fait rien.
Peut-être une dernière question avant de passer à l'échange avec la salle. Comment peut-on expliquer finalement cette arrivée du moment paroxysmique dont parlait M. Declercq ? Est-ce que vous pensez aussi, peut-être comme lui, que cette périodisation dont parlait M. Veil ce matin, c'est-à-dire intention, passage à l'acte, déni, ne se vérifie pas dans le cas du génocide rwandais ? Et finalement, quand est-ce que le terme de travailleur interamoué, hein, quand est-ce que cette idée finalement d'un passage à l'acte massif a commencé véritablement à apparaître?
Alors travailler, au Rwanda, travailler, ça voulait dire tuer. Le discours du président de Kugabo à Butare le 18 avril 1994, il appelle les gens au travail, c'était de les appeler, il s'agissait d'un appel à tuer. Alors, ce que M. Veil a dit et ce que Vincent met un peu, il a émis des réserves à ce sujet. Je pense que c'est pas dans le temps. Il n'y a pas intention passage à l'acte négationniste. Ça ne sont pas des choses qui s'échelonnent forcément dans le temps. C'est des choses concomitantes. Mais on peut quand même les distinguer parce que sinon on peut plus parler. Dans le passage à l'acte, il y a l'intention. Et dans le passage à l'acte, il y a en même temps le déni. Je pense que quand on parle, effectivement, on parle de trois phases, mais ce serait les trois. Si on faisait une image à trois dimensions, ce serait le même instant T où il y a l'intention, où il y a le passage à l'acte, et où il y a le déni. Simplement, l'intention peut précéder, on peut la dater, parce que avant de passer à l'acte, il faut organiser. Il faut organiser les choses. On ne peut pas passer à l'acte dès lors qu'on veut. Je vais les tuer, donc je le fais le même jour. Il me faut des acteurs. Il me faut une propagande. Il me faut un relais de cette propagande. Il faut mettre en place une radio comme la radio Thérèse Libre de Mille Collines qui est mise en place en juillet 1973. Il y a un temps pendant lequel on met en place des outils qui permettront le passage à l'acte. Il y a un temps pendant lequel on prépare les esprits aussi, parce qu'il ne faut pas que l'opinion adhère. Il faut éviter qu'il y ait des mouvements de foule contre. Donc il y a certainement un temps pendant lequel tout cela se prépare, mais pendant tout ce temps il y a des passages à l'acte quand même, puisqu'il y a ces pogroms. Il y a le déni, puisque le déni précède le passage à l'acte, parce que ça veut dire que celui qu'on va éliminer physiquement, on l'a déjà éliminé mentalement de comme la personne humaine ayant droit à la vie. On est déjà dans le déni, puisqu'on commence par l'accuser de ce qui va lui arriver. C'est eux qui nous menacent, c'est pas nous qui les menacent. Donc, il y a dès le début jusqu'à la fin l'intention. Et le déni et le passage à l'acte de temps en temps pour convaincre ceux qui ne veulent pas croire, leur montrer que c'est possible.
Merci beaucoup, monsieur Kabanda. Je pense qu'on a le temps peut-être pour une ou deux questions dans la salle.
Je vais faire monsieur Boyard.
Merci.
Je fais bien.
Bonjour à tous, merci à tous d'être si présents, malheureusement un peu nombreux. Je souhaitais d'abord...
Non, c'est bien, continue, peu nombreux ici.
Ah, oui, tout à fait.
Bien, Jean. Qui écoute, qui regarde.
Ouais, pardon. Sans l'organisation massive, l'investigation massive et l'investissement massif de Frédéric Ancel ici présent, ce jour-là n'aurait jamais eu lieu. Je sais qu'il n'aime pas que je dise ça, mais je le répète à chaque fois quand j'en ai l'occasion. Je me permets de compléter juste sur un mot qui m'a interpellée par rapport à ce que M. Kabanda vient de dire, que je complète et je ne modifie pas, le mot « ignence ». Effectivement, son origine, hein, son existence, c'était « quoi qu'on les extermine, quoi qu'on les tue, ils existent toujours ». Effectivement, le mot a été initialement donné par ce qu'on appelle aujourd'hui FPR, par les jeunes Tutsis, après qu'ils aient été expulsés, menacés massivement. Les enfants étaient tués par la poudre nocive, bien entendu, et les maisons étaient brûlés dans les mêmes occasions, en fait, avec les mêmes faits. Donc on brûlait, on mettait la poudre dans les maisons, on les brûlait avec les gens dedans et des enfants assassinés. Des enfants, bien entendu, prédéfinis, préorganisés, planifiés. Donc le but était d'exterminer, en commençant par le plus jeune, de manière à ce qu'il n'y ait aucunement une reproduction d'un peuple tutsi. C'est ce que, malheureusement, il est décédé. Le psychologue Nasson a pris, en fait, des mauvais événements. Les tutsis ont été considérés par des mauvais événements. Et donc, aujourd'hui, moi, je pose la question à Marcel Kabanda, qui est mon président. Mon président, parce qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble sur le point, qui, aujourd'hui, toute personne, ça ne se déroule pas qui est au Rwanda, en fait, ça se déroule à tout tutsi ou qui se retrouve dans le monde entier. Qui peut aujourd'hui dissocier un bourreau, un rescapé et un survivant? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des génocidaires qui résident et qui résistent, qui se nomment eux-mêmes des rescapés. En effet, un génocidaire qui se retrouvait sur place ce jour-là, et non pas 94, mais depuis 73, qui peut dissocier un bourreau, c'est-à-dire un génocidaire par excellence, et une victime, une rescapée. Pourquoi je pose cette question-là? Parce que vous avez les décisions qui avaient été retenues depuis 90, depuis octobre-novembre 1990, qui s'étaient organisées, que si et seulement si, lorsque si et seulement si un Tutsi serait au pouvoir, il se nommerait eux-mêmes Tutsi. Ça a été réitéré en 2000, hein, lorsque le président Paul Kagame prend le pouvoir. Et donc, qui peut aujourd'hui? Aucun être au niveau mondial a les outils pour dissocier un bourreau et un rescapé, un survivant. Merci. Et j'entends ici et là, on aurait pu arrêter ce génocide. Qui l'aurait pu l'arrêter? Ceux qui finançaient? Ceux qui l'effectuaient? Ceux qui étaient morts? Ceux qui ont pu l'arrêter? C'est nous. Merci.
Désolée, j'ai pas de réponse à la question. Qui peut les dissocier? Qui peut dire qui peut distinguer les bourreaux, les rescapés, les victimes? Comment pensez-vous les distinguer? Vous voulez dire que est-ce que si je, quand, je suis dans, quand je marche dans la rue, je vais savoir que lui c'est la victime, le rescapé, et elle c'est le bourreau? Je ne peux pas. Mais ce sera le travail de la justice, et puis ce se fera aussi par le témoignage des gens, des rescapés eux-mêmes. Mais je ne peux pas dans la rue savoir qui est juste parce que je le regarde. Je ne peux pas le savoir. Mais il y a parfois des choses que je sais quand j'écoute les gens parler, je sais à peu près à qui j'ai affaire. Mais je vois, par exemple, Maître Mengue qui se lève, je ne voudrais pas qu'il se lève, qu'il aille trop loin. Parce que, je ne veux pas que tu ailles trop loin, je te dis, il ne m'entend pas. Je voulais juste dire que ce que nous disons...
Il va prendre du sucre et il revient.
D'accord.
Il a besoin de sucre.
Oui, il a besoin de sucre. Alors, ce que nous disons aujourd'hui, la question que vous m'avez posée, c'était de la haine au génocide. La même haine dont je viens de parler, que nous dénonçons, qui a conduit au génocide au Rwanda, et le génocide, tout le monde dit, on va commémorer, c'est épouvantable ce qui s'est passé au Rwanda, tout le monde le reconnaît. Mais c'est épouvantable, la même rhétorique reprend depuis Bé au Congo, avec de temps en temps des pogroms, des actes de mise à mort, des crimes, des violences inouïes contre les Tutsis. Et contre cette violence, on ne fait rien, on ne dit rien. Alors que nous sommes tout à fait capables de nous réunir dans une salle pour commémorer le génocide, regretter qu'on n'ait pas vu, qu'on n'ait pas entendu, qu'on n'ait pas su l'arrêter, et ne rien faire là où ça se développe. Alors, je pense qu'il y a un problème, les commémorations, à quoi ça sert? Je pose cette question, même si je suis prêt à organiser la 30e commémoration ici. Mais je me souviens qu'en 94, au printemps 94, je regardais les grands moments de commémoration de la libération, c'est ça, du débarquement. Et quand je regardais ces manifestations, je me disais, oui, à cette époque-là, les gens se sont investis, ils se sont sacrifiés pour mettre fin au régime nazi. Aujourd'hui, un régime semblable, puisqu'il y avait déjà eu l'article de Jean-Pierre sur le nazisme tropical, on ne fait rien. Donc, se souvenir, oui, mais aussi avoir les yeux, ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de nous, au moment même où nous nous souvenons, c'est important.
Vous êtes inquiet aujourd'hui de ce que le général Carreri et ses hommes pourraient faire envers les Tutsis du Congo? C'est à ça, je pense, que vous faites. Le chef de la ministre, c'est l'Alliance des Patriotes, c'est ça, pour le Congo libre?
Oui, j'ai peur de ce que les Ouazalendo font au Congo à l'égard des Tutsis. J'en ai peur parce qu'en plus, il y a, à côté de ces milices congolaises, il y a les forces de libération du Congo qui sont des émanations des forces génocidaires rwandaises. Enfin, cette mémoire, cette histoire devrait être un outil pour gérer le temps présent. Et en fait, il ne l'est pas.
Ce génocide aurait dû être arrêté
par tous. Tout le monde est responsable.